Ok, alors on est maintenant au deuxième cours concernant les lois de la cérémonie du mariage. On arrive au Kiddushin. Kiddushin, troisième cours ? Troisième cours. Les Kiddushin, c'est la consécration nuptiale. Le mari, le futur mari, donc le Khatan, va donner à la Kala la bague. Mais ce n'est pas si simple. On va étudier donc dans l'ordre comment a lieu toute cette histoire-là de Kiddushin. Première chose, avant les Kiddushin proprement dit, on va faire deux brachot. On prend un verre de vin, chaque fois qu'il y a une occasion de joie, alors on fait la bracha borepri à Geffen sur le vin. Et là aussi, normalement, ça devrait être le Khatan lui-même qui va faire deux brachot. Borepri à Geffen et la bracha des Kiddushin. Avant de faire une mitzvah, très souvent il y a une bracha. À Nitatadaim, on se lève les mains, on fait la bracha à Nitatadaim, avant de faire du chauffard, les chemins avec le chauffard, Megillah, les chemins, etc. Chaque fois qu'on a une mitzvah, alors on fait une bracha auparavant. Là aussi, on fait une très grande mitzvah, on va maintenant les Kadesh, on va consacrer ça à Kala, lui donner la bague, avant on fait une bracha. Normalement, ça devrait être, comme je l'ai dit, le Khatan qui fait la bracha. Pour deux raisons. Aujourd'hui, la coutume est que c'est le Rav qui fait la bracha. Première raison, on a peur que le Khatan est complètement en tête en l'air, il ne sait pas où il est, comme tous les Khatanim normaux, d'accord. C'est quand même un acte qui est très 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 poignant et on est très intimidé. Donc il va se tromper, il va faire la bracha à l'envers, à l'endroit. Donc on donne à quelqu'un qui est plus les pieds sur terre, le Rav, qui va faire la bracha à la place du Khatan. Deuxième raison, pour ne pas faire honte à celui qui ne sait pas. Beaucoup de juifs ne savent même pas lire l'hébreu. Il va lire la bracha, il va la lire complètement à l'envers aussi, et il aura honte. Donc, pour régler tout sort de problèmes, le Rav qui me fait le Kiddushin, qui est celui qui va organiser donc les Kiddushin, c'est lui qui fera ces deux brachot, mais vu qu'il est fait pour le Khatan, alors il est impératif que les deux, le Khatan et la Kala, c'est le Mahloket, si c'est que pour le Khatan, il y en a qui disent aussi pour le Khatan et la Kala. Donc, pour qu'il n'y ait pas de problème, on dira aux deux personnes, au Khatan et à Kala, attention, et ça c'est impératif de le rappeler cela sous la choupa parce qu'ils oublient, maintenant le Rav fait la bracha pour les rendre quittes, alors vous devez penser être rendu quitte par la bracha du Rav, le Rav doit penser être quitte, doit penser les rendre quittes par sa bracha. Pour cela que les deux mariés, Khatan et Kala, ne vont pas répondre Baruch ou Baruch Shemo, parce que le fait, qu'est-ce qui se passe en fait, quand ils écoutent la bracha, c'est comme s'ils la disent. Alors s'ils disent Baruch Ata Hashem, si quelqu'un fait une bracha, Baruch Ata Hashem, on va dire Amosi Lachem Minaret. D'accord ? Il dit Baruch Ata Hashem, Baruch Uvaruch Shmo, Elokanu Melech Olam, Amosi Lachem Minaret. Comment ça fait cette bracha ? Elle est un peu bizarre, n'est-ce pas ? On ne dit pas Baruch Ata Hashem, Baruch Uvaruch Shmo. On ne fait jamais une bracha comme ça. Celui qui écoute de côté dit Baruch Uvaruch Shmo. Mais moi qui dis la bracha, je ne dis pas Baruch Uvaruch Shmo au milieu. Vu que là, en écoutant la bracha, ils sont rendus quittes, c'est comme s'ils la disent eux-mêmes, donc ils ne devront pas dire Baruch Uvaruch Shmo. Si malgré tout ils ont dit, parce qu'ils ont une habitude de le dire, tant pis. Bedi Avad, a posteriori, c'est valable. Mais a priori, on dira au Khatan Akala de ne pas dire Baruch Baruch Shmo. Par contre, il est impératif qu'ils répondent Amen. Donc, dès que le Rav a fait la bracha, ils doivent penser ces deux brachot et ne plus parler. Ne plus parler jusqu'à ce qu'ils vont boire. On a fait Borepri à Geffen, on a fait la bracha des Hirusin, ils se taisent. Le Rav va goûter un peu, et après il donne au Khatan qui va goûter un peu, et il ne va pas donner directement à la Kala, parce que ce n'est pas encore sa femme, il n'a pas encore mis la bague. Alors c'est un manque de der eretz, de savoir-vivre, du point de vue des lois de pudeur, que le Khatan donne directement un verre de vin à la Kala. On prendra le verre de vin, on donnera à la mère de la Kala, ou à une autre personne dans l'assistance, s'il n'y a pas la mère de la Kala, elle n'est pas là, et elle donnera à boire à la Kala. Tant que le Khatan et la Kala n'ont pas bu, ils n'ont pas le droit de parler. Qu'est-ce qui se passe s'ils ont parlé ? Alors tout dépend. S'ils ont parlé avant que le Rav, il a goûté le vin, dans ce cas-là, ils sont obligés de refaire la bracha, Borepri à Geffen, avant de boire le vin. Comme dans le cas de n'importe quoi. Si je fais un Motzi Lechem Min Haaretz, ou le Kiddush, le vendredi soir, et quelqu'un a parlé avant de goûter le vin, ou avant de manger le pain, s'il a goûté avant que celui qui a fait la bracha lui-même a goûté, donc, il y a eu un arrêt entre la bracha et la consommation. Donc, dans ce cas-là, la bracha n'est plus valable. Ça veut dire, eux devront faire la bracha. Si par contre, celui qui a fait la bracha, il a déjà bu. Donc la barade s'est déjà posée sur quelque chose, elle s'est posée sur le vin. Elle a eu lieu, elle a déjà eu une halout, comme on dit en hébreu, elle s'est posée, elle a déjà eu une réalisation dans le vin qui a été bu. Alors d'après le Réma c'est le Shulchan Aruch d'Ashkenazi, et c'est pas lui qui a inventé les choses, c'est d'après des rabbanim rishonim qui dit cela. La barade a vu que c'est posé, maintenant eux ils sont rendus cuites. Même s'ils ont parlé, même si le Khatan Akala ont parlé, alors ils peuvent boire. C'est vrai que c'est un safek. D'après le Shulchan Aruch des Sfaradim, ils ne peuvent pas boire. Mais il y a un autre problème ici. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas compliquer les choses. Mais lorsque quelqu'un écoute une bracha pour être rendu quitte, c'est comme s'il dit la bracha. Maintenant, c'est une halakha tout simplement. Je te demande maintenant, j'ai une pomme, tu as une poire, allez, rends-moi quitte pour la bracha. Pourquoi? Comme ça. Je suis fatigué, je n'ai pas envie de faire la bracha. Tu dis, bon, repris à Etz, en pensant me rendre quitte, et moi je pense être rendu quitte par ta bracha. Je réponds amen, et après je me suis dit, allez, tant pis. Je le ferai moi-même aussi. Ou j'ai plus envie de manger la pomme. Pour moi, c'est bracha le batala. Bien que je n'ai rien prononcé, vu qu'il y a un digne de Shoma qui est honnête, celui qui écoute, c'est comme s'il dit, alors c'est comme si je dis. C'est comme si je dis une bracha en vain. Donc, il est impératif, ici, vu que le Khatan Akala ont entendu la bracha du Rav, et ont pensé être rendu quitte, s'il ne boit pas, ils ont fait bracha le batala. Si maintenant, ils ont parlé avant que le Rav parle, alors la bracha du Rav, c'est fini. Pour eux, elle n'est pas valable. Le Rav boira. Comme ça, pour le Rav, c'est OK. Eux, ils ont un problème, c'est vrai. Boire, ils ne peuvent plus. Ils devront refaire la bracha pour boire. Mais s'ils ont parlé après que le Rav a goûté, d'après le Réma, ils sont rendus quittes. D'après le Shulchan Aruch, ils ne sont pas rendus quittes. Mais s'ils ne boivent pas, il y a un problème de Bachal Batala. Donc, ça fait que Bachot Lakel, on dira que mieux vaut qu'ils boivent, même que d'après l'avis du Shulchan Aruch, Sfaradi, ce n'est pas valable. Mieux vaut qu'il boit, parce que s'il ne boit pas, il rentre dans un autre problème beaucoup plus grave de Bachal et Batala. Donc je récapitule en deux mots le substrat, le résumé. Si le Khatan Akala ont parlé avant que le Rav ait bu, dans ce cas, ils refont la bracha pour boire du vin. S'ils ont parlé après que le Rav a bu, alors ils vont pas continuer à parler, et ils boiront du vin bien qu'ils ont parlé. Tout cela, on parle dans le cas où ils ont parlé d'une chose qui n'a rien à voir avec la bracha du vin. Mais s'ils ont parlé d'une chose qui a à voir avec la bracha, c'est pas un F-sec, c'est pas considéré comme un arrêt. Ils ont dit par exemple, le vin est cachère, ou est-ce qu'il faut que je bois, ou combien je dois boire. Il a parlé quelque chose, ma femme aussi, je dois lui donner, d'accord. Et ils ont parlé à propos des choses qui sont du vin, de l'instant. Là, c'est pas considéré comme un F-sec. C'est marqué dans la halakha, si quelqu'un maintenant, il a fait un motzilach min haaretz. D'un coup, il lui faut du sel. Il dit, amenez-moi le sel. Où le sel? Quelqu'un lui demande, où? Dans l'armoire, deuxième porte à droite, derrière la bouteille de vin, là-bas, il y a le sel. C'est pas là-bas, non. Alors regarde dans l'autre armoire là-bas. Il a dit toute cette grande phrase. Après qu'il a dit la chemina aretz, a priori, il ne faut pas le faire. Mais s'il a fait, la bracha reste valable et il pourra manger le pain sans devoir refaire la bracha. Pourquoi? Parce qu'il a parlé des choses qui ont à voir avec le fait de manger le pain. Pour tous les cas de brachot, si on a. A priori, il ne faut pas parler du tout. C'est ce qu'on fasse, la chose qu'on. On est tadaim, etc. Mais si on a parlé d'une chose qui a à voir avec la bracha, alors c'est pas un sec a posteriori.
Alors, s'il a parlé d'autre chose, c'est
c'est fichu.
La bracha pour le Khatan, il n'est pas quitte.
Il n'est pas quitte. Si il a parlé avant que le Rav ait bu. S'il a parlé après que le Rav ait bu, la bracha, elle s'est déjà posée sur le vin. Donc elle a été faite. Donc c'est valable. Le Réma dit que c'est comme ça, c'est valable. Et nous, vu qu'un safek brachot, on compte sur l'avis du Réma.
Le Rav est obligé de boire.
Pardon ?
Le Rav est obligé de boire.
Oui. D'après le Rambam, oui, comme ça on est pour ça que la halakha. Il doit boire, il a fait boire après Geffen, il doit boire le Rav aussi. Combien il boit? Il goûte. C'est pas comme l'Avdala ou le Kiddush. Dans l'Avdala et le Kiddush, il est nécessaire qu'on boit au moins Rov Revit. La majorité d'un Revit. Un Revit, c'est 86 millilitres, un peu plus de la moitié, donc ça fait environ 44 millilitres. Il faut boire 44 millilitres du vin pour être rendu quitte. Ça, c'est valable pour l'Avdala et pour le Kiddush. Pour toutes les autres fois où nous avons du vin, pour une mitzvah, la brit mila, le mariage, autre chose du même type, il suffit de goûter. D'accord? Pas besoin de se forcer à boire beaucoup, ni le rab, après il va être un peu rond, et le khatan encore plus. D'accord? Surtout s'il a jeûné et boit et maintenant du vin à jeun, il sera complètement capoute. Il ne saura même plus à qui il doit donner la bague. Donc ça peut être dangereux.
On ne doit pas boire un revit minimum, c'est le rov de vin d'un revit.
Ça, c'est pour le kiddush.
Kiddush,
rov revit avdala, rov revit. Tout cela, c'est pour le minimum rov revit. Donc majorité de revit, donc ça fait 44 millilitres. Ici, pour les kiddushin, pour le mariage, il suffit de goûter. Donc le Rav vient pour faire les deux brachot. Il faut absolument que tout le kahal, tout le public se lève. Pourquoi? qu'on a vu auparavant, sous le dénuptial vient la Shrina, la présence divine. En honneur de la Shrina qui vient, la présence divine, il est nécessaire que tout le monde se lève. Donc la coutume qu'il y a dans quelques synagogues françaises, que tout le monde reste assis comme ça, il y a le tapo, le white carpet, le tapis blanc au milieu, et tout le monde applaudit quand le Khatan Lakala, il passe, on reste assis comme ça, comme un spectacle, c'est faux. Il est nécessaire, d'après l'Halakha, que tout le monde se lève. Entre parenthèses, il est permis de se marier dans une synagogue. Mais attention, la synagogue est un endroit qui est saint. On n'a pas le droit de parler de paroles qui sont ni de mitzvah, ni de Torah dans une synagogue. Mais ce n'est pas des paroles vaines. Paroles vaines, c'est politique, c'est n'importe quoi, des choses interdites, la shonara. Ça, c'est pas chou, c'est évident que c'est interdit, même à l'extérieur. En synagogue, même des paroles de chol, c'est-à-dire profanes. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as fait? Alors quoi de neuf? N'importe quoi on parle qui n'est pas ni mitzvah, ni Torah, c'est interdit. C'est une loi positive de la Torah, ou migdashi tirao. Vous aurez la crainte de mon migdash. Le Zohar, il est très très... Il y a des choses terribles là-dessus, je ne vais pas les dire maintenant, parce que je ne vais pas faire peur aux gens. Mais en tout cas, il faut faire attention. Si la synagogue a un statut de synagogue, des fois les synagogues, pour parer ce genre de problème, les constructeurs de la synagogue font un tnaï, posent une condition que la synagogue n'aura pas un statut de synagogue. Ce sera comme une chambre normale. Comme ça, si les gens ne savent pas, ils parlent, alors ce n'est pas si grave. Mais si c'est vraiment un statut de synagogue, il y a une, c'est comme un petit temple, il y a une présence divine, et l'intérêt de parler des paroles de chol, ou à plus forte raison, paroles vaines. Tout ce qui est permis, paroles de mitzvah, il y a une mitzvah de parler de cela, on veut parler maintenant de comment on va faire un modèle de la tzedaka, on va parler du chesed, on va parler de choses qui sont bien, ou de Torah. Donc, bien qu'il ait pas une semaine dans une synagogue, c'est permis. Attention au public qui commence à papoter, etc. Vous allez acheter votre robe, etc. etc. Ça, c'est pas du tout des choses. Beth Midrash est plus sain qu'une synagogue. Dans une synagogue, il y a une certaine gdoucha. Dans un Beth Midrash, il y a encore plus. Dans une synagogue dans laquelle on étudie qu'il y a un Beth Midrash et synagogue, il y a deux gdouchot ensemble, c'est hyper complètement sain. Ici, il y a un tnaï. C'est bon.
Faut se renseigner.
Pardon ?
Faut se renseigner.
Il faut se renseigner. Je pense qu'en France, toutes les synagogues ont un statut vraiment de grandes synagogues. Donc, faire attention de ne pas parler des paroles qui sont vaines. Donc, nous conseillons, pour éviter les problèmes, je ne vais pas dire au public maintenant, taisez-vous, d'accord, ils sont en mariage, on s'en doit montrer l'Europe, etc. C'est pas... Donc, on conseille de ne pas se marier à la synagogue, se marier dans un salon, etc., de façon beaucoup plus simple.
Ok,
je dis à l'Alaha. Ça ne sait pas, je dis qu'est-ce que dit l'Alaha. Tant pis pour ceux qui ont entendu ce que j'ai dit. C'est une parenthèse. Vu que la Shrina est là, a priori, il faut qu'il y ait 10 personnes présentes, 10 hommes, cachers. 10 hommes, cachers comme un minyan. Partout où il y a la Shrina qui vient, les choses de Kedusha, on va faire un Kaddish, on va faire la Kedusha, on va faire la Hamida, il faut qu'il y ait 10 personnes. Là aussi, pour le mariage, il faut qu'il y ait 10 personnes. Est-ce que c'est pour les Yerushin ou pour les Nisouin? Il y a une différence entre les Kiddushin, d'accord, les Yerushin, donc les Kiddushin, le fait de mettre la bague, et les 7 brachot qu'il y aura après, qu'on appelle le mariage proprement dit, les Nisouin. Pour les Nisouin, même Bediavad, même si on n'a pas le choix, il y a 9 personnes, il n'y a pas 10, alors on ne pourra pas faire les 7 brachot. On fera que la première et la dernière. Quand après, comme ça dit le Ben Yishraï, quand après ils trouveront 10 personnes, quelqu'un était maintenant, je ne sais pas moi, ils étaient sur une île déserte et ils voulaient se marier. Mazal Tov, on va pas rester, il n'y a pas 10 personnes, on se marie quand même. Ils se marient, ils font la première et septième bracha. Quand ils arriveront un jour sur la terre ferme, l'endroit où il y a du monde, ils prendront 10 juifs et referont les 7 brachot de nouveau, les 7 entières. Ça c'est pour les Nisouin. Pour les Kiddushin, ce que nous sommes en train de parler maintenant, le fait de mettre la bague, les 2 brachot, là a priori on veut 10. S'il n'y a pas 10, Bediavad, ça peut aller, s'il y a moins de 10. Mais a priori on demandera qu'il y ait 10 personnes et que tout le monde sache que la Shrina est... présente.
Il faut se lever pendant toute la durée du mariage.
Toute la durée du mariage, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il casse le verre. La Shrina est là, il faut rester debout sans cesse.
Ça commence quand, au moment de la bracha?
Avec la première bracha, Borei Pri HaGefen. Ok, donc notre Rav va commencer à faire les 2 brachot. Première bracha, Borei Pri HaGefen. Alors je dis Borei Pri HaGefen, mais c'est faux. D'après les lois de grammaire juive, chaque fois qu'on a un mot qui commence par une lettre qui a un dagesh, le mot péri, le P, peut se dire fait ou paix. Avec un dagesh, un point dedans se dit paix, sans point dedans se dit fait. Les lois de grammaire disent, si le mot qui a avant finit par une de ces 4 lettres, Aleph, Hey, Vav, Yud, on appelle ça Ahevi. Aleph, Hey, Vav, Yud, le mot d'après n'a pas de dagesh. Donc, quelle est la lettre par laquelle finit le mot qui est avant péri? Boré, préagéphène. Boré finit par quelle lettre?
Aleph.
Donc, P doit avoir un dagesh ou pas de dagesh? Pas de dagesh. Donc, on dit Boré, Boré, Féri, Hagefen.
Il faut qu'il s'appuie les gens qui disent Péri. La majorité, ils disent Péri.
La majorité, ils disent Péri. Tu lis les lois de grammaire juive, comme celle de la Rav Ben Tzion. D'autres avis disent qu'on peut dire Boré, Péri. C'est vrai. Je ne sais pas sur quoi ils s'appuient. Les lois de grammaire sont très claires. Si bien sûr ils ont dit Boré, Péri, Hagefen, c'est valable, il n'y a aucun problème. Mais si déjà nous parlons de faire les choses comme il faut au mieux, alors au niveau de la grammaire juive, comme je dis, on doit dire Boré Feri Ha Gefen, Boré Feri Ha Adama, Boré Feri Ha Etz. Tout cela, c'est la même chose. Quelle est la deuxième bracha que va dire le Rav? C'est la bracha des Kiddushin. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Béni sois-tu l'Éternel, Elokeinu Melech HaOlam, notre Tout-Puissant, notre Tout-Puissant Melech HaOlam, roi du monde. Qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, par ses ordonnances. Vetzivanu nous a ordonné à la rayot, les interdictions sexuelles. On bénit Dieu que nous, âme Israël, on ne touche pas ce qui est interdit. Tzivanu à la rayot. Arayot, c'est l'interdiction sexuelle. Vassalamata arousot nous a interdit les arousot, les fiancés. Une fiancée, même qu'on lui a déjà mis la bague de fiançailles, elle est interdite à son mari tant qu'il n'y a pas eu les nisouines, les sept brachot sous le talit. C'est marqué dans Maseret Kala que celui qui a une relation avec sa fiancée, qu'il a consacré déjà, il a mis la bague, arrête mes coups de chetli. C'est une relation avant les sept brachot, elle est considérée comme une femme nida, comme une femme impure. Kala, belo bracha, asura kenida, une kala. Une mariée sans bracha, elle est interdite comme une nida. Donc, on dit ici qu'Assar l'alota arousot nous a interdit les arousot, les fiancés. Vitir l'anou nous a autorisé, et anesuot l'anou nous a autorisé les femmes mariées à nous. Pas les femmes mariées aux voisins. Nous autoriser nos femmes mariées. On a plusieurs femmes, on a une femme, mais on est plusieurs, donc chacun nous a autorisé nos femmes mariées à chacun de nous.
C'est pas parce qu'avant, on pouvait se marier avec plusieurs femmes.
Oh, si tu veux, mais le vrai pshat, c'est comme je te dis. Et en soit, l'anou, à l'aider choupa vekidushin, par la choupa bekidushin. Là encore, une faute, et c'est important que, bien sûr, le rav qui dit la bracha, mais aussi le chatan kala comprennent qu'est-ce qu'ils disent. On pourrait croire en entendant Rupa Vekidushin. Rupa, dénuptial. Kidushin, c'est consécration nuptiale. On dit, ces femmes nous sont autorisées par Rupa, par dénuptial, et Kidushin, consécration nuptiale. Le V, c'est pas un E, c'est un Vet. On devrait dire Rupa Bekidushin, qui signifie par Kidushin. La Rupa, c'est donc le talit qu'on met sur le Hatan et Kala, c'est les Nisuin. Ils ont eu lieu par Kiddushin. Il y a eu un Kiddushin, on a mis la bague, et après on est rentré dans ce que le dénuptial. Donc il y a eu Chupa par Kiddushin. Be Kiddushin en hébreu. Mais vu que le mot Chupa finit par quelle lettre? Hey. Donc le B de Be Kiddushin n'a pas de dagesh, on le prononce V. Mais ce n'est pas V avec un Vav qui signifie en hébreu E, mais c'est un Bet en hébreu qui signifie par. Donc Chupa. Venons par Kiddushin. Baruch Ata Hashem, béni soit-tu l'Éternel, Mekadesh Amo Israël, qui sanctifie son peuple d'Israël, Ayede Chupa, par Chupa, Be Kiddushin, ayant lieu par Kiddushin. Et tout le monde répond Amen. Sans parler, le rabbin boit un peu de vin, donne au Khatan qui boit un peu de vin, la Kala va soulever son voile et elle va boire un peu de vin, en passant par la mère qui lui a donné.
C'est la deuxième fois, ça, ou...
Première fois, mais je raconte comment ça se passe.
C'est bien que notre personne boive ce verre de vin ou...
Non, aucune importance. Aucune importance. On passe maintenant, on a fait la bracha, il faut passer à l'action, les kiddushin. La Torah a dit, comment a lieu un kiddushin? Il faut que l'homme donne à la femme quelque chose qui a la valeur d'une pruta. Une pruta, c'est environ, aujourd'hui, peut-être, c'est 1 centime d'euro. D'accord? En gros, 1 ou 2 centimes d'euro. 6 ou 7 agourottes. en shkalim. Une valeur minimale d'argent, une chose qui a une valeur d'argent minimale de cela, lui donne l'échem kiddushin, par consécration nuptiale. Ce n'est pas un achat, pas du tout, ce n'est pas le prix de la femme, elle vaut beaucoup plus, Baruch HaShem, des millions et des milliards. C'est, on veut faire une chalout. Les deux veulent se marier, il faut faire un acte d'acquisition. L'acte d'acquisition de chibour, d'union, il a lieu par une chose qui se fait dans la matière. C'est comme un achat. D'accord ? Mais c'est pas... Aujourd'hui, on fait un achat, je veux une chose, je te donne l'argent, je te donne la valeur de cette chose. Ça n'a rien à voir, on ne donne pas la valeur de la femme. Mais on fait un acte de kinyan, d'acquisition, qui fait que notre bon désir qu'on a, le Khatan Akala, d'être ensemble, il a une réalisation sur Terre. Il y a quelque chose qui va faire sur Terre que ça s'est réalisé. Pour que ça soit valable, il est impératif. Pas que simplement l'homme donne à la femme une chose qui a une certaine valeur, il faut qu'il y ait deux témoins qui regardent. Les deux témoins cachers ne voient pas cela, bien que ça a été fait, c'est pas valable. Même s'ils savent que ça a été fait. Même s'ils savent, on a une loi, je veux dire, même s'ils savent que ça a été fait, c'est pas valable. On a une loi dans Rachel Mishpat, dans les lois financières. Nous sommes deux témoins. Nous allons maintenant, nous rentrons dans une chambre, dans un coffre-fort. On compte le nombre de billets qu'il y a. On voit qu'il y a 1000 dollars. On ferme le coffre-fort. On voit quelqu'un qui rentre. On sort de la chambre. On voit un autre qui rentre. C'est le seul qui est rentré. On retranche clinch-clong. Il ressort. On rentre, on voit le coffre-fort ouvert. Et on voit, il n'y a plus 1000 dollars, il n'y a plus que 900 dollars. On n'a rien vu. Mais on a un témoignage clair. C'est pas un papillon qui est rentré. Le monsieur, il est rentré, on entre en clink-clonk, il ressort. Il y avait 1000, maintenant on recompte, il y a 900. Bien qu'on n'a rien vu, au niveau des lois de Rachel Mishpat de la Torah, on peut aller, le propriétaire des 1000 dollars peut exiger les 100 dollars du type qui est rentré. C'est comme si on a vu. Pourtant, si moi je sais, j'ai eu un cas une fois un mariage, et deux témoins. Le témoin, au moment où il met la bague, où le khatan met la bague à la kala, quelqu'un veut lui dire bonjour. C'est un monsieur important. Il lui dit bonjour monsieur. Et il a raté. Il a raté le don de la bague. Il n'a pas vu. Mais il a très bien vu que le khatan, il a très bien entendu le khatan, et il a vu le, et entendu le khatan qui dit arrête beaucoup de chetli. Et il voit qu'il va lui mettre la bague. Il tourne la tête. Il retourne. La bague est mise. C'est pas quelqu'un d'autre qui a dit, c'est pas quelqu'un, la bague n'est pas tombée du ciel. Au niveau de la connaissance, savoir, il sait que ça s'est fait. Il n'a pas vu. D'après beaucoup de décisionnaires, c'est pas valable.
Il
faut recommencer. Donc il est nécessaire. On va tout expliquer qui se passe, qui, quoi, comment. Il est nécessaire. Je vous dis maintenant les lois en gros. Qu'il y ait deux témoins cachers qui voient cet acte. Donc c'est très important. De prendre deux témoins d'abord qui soient cachères. C'est quoi cachère ? C'est un témoin qui a fait aucun péché. S'il a fait un péché avec une action, s'il a une pensée ou un regard en péché, ça peut encore passer. Mais s'il a fait une action qui est interdite, il a fait une action qui est interdite par la Torah de Horaïta, alors il n'est pas soul de Horaïta, il n'est pas valable de Horaïta. Si c'est un péché qu'il a fait avec une action, donc c'est qu'on est Chayim Malkout, il a mangé du porc, il a volé, des choses comme ça, il est pas soul les doutes, pas valable pour être témoin. S'il a transgressé une loi des Rabbanan, alors il est pas soul des Rabbanan, des rabbins. Par exemple, il joue au poker, d'accord, pour l'instant c'est interdit des Rabbanan, il fait le commerce de perrot de Shvit, de fruits de Shvit, de septième année en Israël. Chazal, on sait dans le Gemara de Rosh Hashanah qu'il n'est pas valable, il est pas soul des Rabbanan. Donc, en fait, la chose la plus importante au mariage, si les brachot, on a tout raté. On n'a fait aucune bracha. Ni avant, ni après tout ça. Ils sont mariés. Si les témoins ne sont pas cachers, ils ne sont pas mariés. Donc le plus important, c'est de trouver les témoins les plus cachers possibles. Une fois qu'on les a trouvés, on leur demandera, le rabbin demandera, c'est pas obligatoire, mais c'est bien, faites tshuva. Parce que tout ce que je dis maintenant, si on a fait un péché qu'on n'est pas valable, c'est si on n'a pas fait tshuva. Mais si on a fait tshuva, c'est valable. Donc pour être certain que peut-être la dernière journée, il ne se rend pas compte, il a fait tremper, alors fait tshuva. Alors le type va de côté, il dit, khatat, yamit pashat, je regrette si j'ai fait un péché, je regrette complètement, voilà, Dieu pardonne-moi ce que j'ai fait, je regrette. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je regrette ce que j'ai fait. D'accord ? Pour moi, je regrette si j'ai un truc que je ne suis pas propre, je regrette complètement. Alors, c'est réparé. C'est bien qu'il soit Meharim qui pense faire tshuva. On prend les deux témoins et c'est pas obligatoire, mais c'est bien, le Khatan va leur dire, vous êtes mes témoins. Il va spécifier qui sont les témoins. Pourquoi ? Pour pas qu'il y ait ici un oncle de la famille. Un témoin non seulement doit être kasher, mais ne doit pas être parent avec le Khatan ou la Kala. Parent ni premier degré ni deuxième degré. Il doit compliquer qui est considéré comme parent ou pas. Pour être certain, on prend quelqu'un qui n'a aucun lien de parenté. Ni avec Khatan et Kala, ni entre les deux témoins. Ce mois dernier, j'étais à un mariage, orthodoxe bien comme il faut, et il s'avérait après que les deux témoins étaient parents. Rebelote, ils ont fait le mariage trois jours plus tard. C'est sympa de se marier trois jours d'écart. Ils sont remariés 3 jours plus tard. On souhaite cela à personne, d'accord ? Donc, ils ont fait la fête, ils ont tout fait, puis 3 jours après, ils ont refait. Sans faire la fête, évidemment. C'était en bon français, c'est l'archouma. Donc, vérifier qu'il n'y a pas de parenté entre les témoins, eux entre eux, et avec Khatan et Kala.
Il y a deux témoins de la Khatan, il y a deux témoins de la Kala.
Il y a deux témoins, c'est tout. Il y a deux témoins en tout.
Ah ouais, un chacun.
Pas un chacun, deux témoins. Peu importe, c'est pas. Alors, c'est vrai qu'au niveau des qu'on appelle les kiboudim, chacun veut honorer des gens qu'ils connaissent. Alors on fera moitié-moitié. Alors le côté de la Khatan prendra un témoin à eux, le côté de la Kala prendra un témoin à eux. Mais ce qui est important, c'est pas qu'on veut honorer quelqu'un parce qu'il est riche ou parce qu'il est beau ou parce que c'est l'oncle, d'accord ? Il faut trouver un type qui est hyper cachère, le plus cachère. Moi quand je fais. Je suis Misader Kiddushin, je demande au rabbin d'être témoin, tous fuient. Ils se rendent compte à quel point il faut être cacheur, d'accord ? C'est dur de trouver quelqu'un qui est prêt à être aide, c'est pas facile à être témoin, aide c'est témoin. Donc on prendra deux témoins cachers, le Khatan dira vous êtes mes témoins, et pour pas qu'il y ait un autre oncle dans la salle qui dit moi aussi je vais être témoin, hein. Et s'il y a un témoin qui se rajoute à deux témoins cachers, alors tous ne sont pas valables. Il y a 100 témoins cachés, il y en a un en plus qui se met avec eux, tous ne sont pas valables. Donc il faudra dire vous et vous seul. Comme ça, s'il y a même un oncle, quelqu'un d'autre qui pense qu'il va être témoin sans qu'on lui a rien demandé, ce n'est pas valable. Bediavad, a posteriori, même s'il y a un oncle qui a pensé comme cela, vu que le Khatan et témoin savent très bien qui ils veulent comme témoin et pas d'autres, alors ça sera valable aussi. Mais pour être certain bien, c'est mieux de dire vous et vous seul êtes mes témoins. On s'arrête ici et on reprend la prochaine fois. Bah, oh, Khadonai, l'homme, l'homme, l'homme.